Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Cette émission, vous pouvez aussi l'écouter donc en podcast et aussi sur les ondes FM en 107.5. Aujourd'hui, au studio, nous sommes en compagnie de Pauline Perdry, bonjour.
Bonjour.
Et de Christophe Morantin.
Bonjour.
Bonjour, tous les deux, vous êtes représentants de la Confédération Paysanne 26 de la Drôme, donc, et vous êtes ici pour nous annoncer, en outre, plusieurs événements à venir, mais aussi votre annonce pour la campagne des représentations à la Chambre de l'Agriculture.
Bonjour. En janvier 2019 auront lieu les élections professionnelles à la Chambre d'Agriculture. Et donc, c'est des élections qui vont avoir lieu en janvier. Donc, en fait, différents syndicats proposent des listes et le syndicat de la Confédération paysanne de la Drôme, au niveau du conseil départemental, a décidé de présenter une liste pour ces élections. Donc, ces élections, elles ont une importance. En fait, on a du mal à savoir ce qui se passe à la Chambre d'agriculture et pourquoi c'est important pour nous. Mais les résultats des élections à la Chambre d'agriculture permettent la représentativité ou non du syndicat dans les différentes instances, par exemple au tribunal paritaire des baux ruraux, à la CDOA. Donc, les syndicats donnent un avis sur les projets d'installation qui sont présentés au comité de la SAFER et au niveau des fonds Vivea. Les fonds Vivea, c'est des fonds qui sont liés aux formations des paysans. Voilà. Donc, en fait, un syndicat, s'il fait de plus de 8%, a un droit à siéger dans les instances. Et si plus de 25 départements font plus de 10%, ça permet au niveau national que le syndicat soit représentatif. Voilà. Donc, c'est important que les gens aillent voter. Ces votes-là, ça permet aussi que les syndicats existent. Parce qu'en fait, en fonction du résultat qui est fait aux élections, il y a plus ou moins de subventions qui sont allouées aux syndicats et ça permet qu'ils survivent ou qu'ils n'existent pas.
À l'heure actuelle, donc, il n'y a pas de représentation de la Confédération paysanne à la Chambre d'agriculture.
Alors, à l'heure actuelle, la Confédération paysanne compte 2 sièges à la Chambre d'agriculture qui sont liés aux résultats précédents. Et donc il y a d'autres syndicats qui sont représentés avec plus ou moins de sièges et le syndicat majoritaire actuellement au niveau de la Drôme est la FDSEA. Voilà.
Et combien de sièges y a-t-il à pourvoir vous le savez?
Alors là, dans l'immédiat, je n'ai pas la réponse. La liste que nous présentons est constituée de 18 noms plus 2 suppléants. Voilà, donc c'est 18 personnes qui sont volontaires pour apparaître sur cette liste, des femmes et des hommes qui soutiennent le projet de la Confédération paysanne.
La Confédération paysanne, c'est quand même beaucoup de travail aussi.
Alors, à l'heure actuelle, on est 15 élus au conseil départemental de la Confédération paysanne de la Drôme. On est tous paysans par ailleurs, donc on est tous occupés par ailleurs. Et nous avons actuellement 2 animatrices, une animatrice qui est permanente et nous avons aussi une animatrice qui s'occupe principalement des élections. Et donc, dans ces périodes notamment électorales, le travail se multiplie avec l'entrée en campagne, les actions qu'on met en place et tout ça. Voilà. Et il y a aussi un gros travail, en fait, le travail de base, c'est le soutien de l'agriculture paysanne. Donc, on peut avoir des paysans adhérents ou non qui nous contactent parce qu'ils sont en difficulté pour une raison ou une autre. Ça peut être pour des questions foncières, ça peut être pour des questions parfois juridiques. Donc, la Confédération paysanne travaille en lien avec le comité d'action juridique et notamment aussi avec la DEAR, qui est une association qui aide et accompagne les personnes qui sont en parcours d'installation.
Tout à l'heure, vous disiez que vous vouliez savoir un peu plus ce qui se passait à la Chambre d'agriculture. Pourquoi il existe un mystère actuellement? Ou alors, comment ça se passe, justement, la gestion de la Chambre d'agriculture? Est-ce que vous avez quand même des informations qui en émanent, vous, la Confédération paysanne?
Alors, pour l'instant, on a 2 personnes qui siègent, du coup, aux commissions de la Chambre. Donc on a un peu des informations par ce biais-là, notamment sur le budget et tout ça. Après, en tant que paysan lambda, c'est pas évident de savoir comment ça fonctionne. À l'heure actuelle, de l'extérieur, ça ressemble à un fonctionnement d'entreprise où tous les services sont payants, ce qui est un peu dommage parce qu'en fait, la Chambre d'agriculture aujourd'hui, Il y a beaucoup de gens qui sont déçus parce que on n'arrive pas forcément à savoir en quoi elle peut nous servir, alors que c'est quand même un organe qui pourrait nous servir. Il y a des moyens qui sont développés pour ça et qui permettraient de faire plus et mieux dans le sens qui nous convient, quoi.
Par rapport à la légitimité de la représentation actuelle de la Chambre d'agriculture, est-ce que vous sentez que c'est une véritable représentation existante sur le territoire de la Drôme ?
Alors, vous parlez de la représentation de la Confédération paysanne à la Chambre d'agriculture.
Voilà, et les autres qui y siègent.
Alors, en fait, actuellement, avec deux élus de la Confédération paysanne à la Chambre d'agriculture, c'est pas évident de faire entendre les choses. On peut proposer des motions, on peut voter contre certaines choses, mais on n'est pas assez nombreux pour que ce qu'on apporte soit vraiment entendu. C'est-à-dire que quand une motion est proposée, elle est retravaillée, elle ressort au nom d'un autre syndicat. Donc, ce n'est pas évident d'être entendu à ce niveau-là. Après, nous avons aussi des gens qui siègent au niveau de la CDOA, par exemple, qui est une commission départementale pour les installations, là, qui définit si, oui ou non, une installation va être soutenue dans le cadre des aides à l'installation, par exemple. Et même dans ce cadre-là, ce n'est pas évident, avec peu de sièges, d'arriver à dire oui, bah ce type d'installation-là, d'une personne qui trouve sur une petite surface, il faut la soutenir, même si de l'extérieur, ça ne paraît pas suffisamment intéressant en termes de revenus. On est pour qu'il y ait un maximum de personnes qui s'installent dans les meilleures conditions possibles, évidemment. Et par ailleurs, quand il y a des installations qui concernent de l'agriculture industrielle, qui ne correspondent pas du tout à un mode de production qui nous convient, on aurait envie que ce soit de bloquer ce genre d'installation, et c'est pas forcément évident parce que pour l'instant on n'est pas assez nombreux pour pouvoir réagir à ce genre de demande, quoi.
Notre représentation dans les chambres qui est globalement la même dans tout le pays, c'est-à-dire c'est la FNSEA qui est majoritaire, et en fait c'est un système pour l'instant de représentation qui est très inégalitaire et qui conforte le syndicat majoritaire en place. Dans la mesure où les résultats qu'on obtient au niveau des élections, le syndicat qui a le résultat le plus important obtient d'emblée 50% des sièges. Et les 50 autres pourcents sont ensuite répartis proportionnellement aux résultats qu'on fait. Donc ça veut dire qu'on a à peu près pour l'instant, pas aucune chance, mais en tout cas peu de chance quand on est un syndicat minoritaire comme l'est la Confédération paysanne, quoi. Donc ça conforte le syndicat majoritaire aussi dans ces instances-là qui sont quand même qui est l'instance qui définit un peu les règles du jeu au niveau agricole sur le département.
Justement, je parlais tout à l'heure de légitimité. Est-ce que justement, vous n'avez pas, vous pensez ne pas avoir suffisamment d'écoute de la part de la Chambre d'agriculture ou même du pouvoir national ?
Oui, à l'heure actuelle, c'est extrêmement difficile d'arriver à faire bouger les lignes, même s'il y a des choses qui ont bougé grâce à la Confédération paysanne, mais c'est pas quand le ministre, par exemple, entend des projets de la Confédération paysanne, il peut les trouver intéressants. Une fois qu'il regarde la représentativité au niveau des votes et qu'il apprend, par exemple, que ça vaut que 20%, il fait comme si ça n'existait pas, même si le projet est intéressant, parce que, la majorité l'emporte. Et la majorité, c'est l'industrie, les grosses exploitations, pas que, mais principalement, c'est l'import-export, c'est les drones, c'est des gens qui touchent beaucoup, pour beaucoup, qui ne touchent plus la terre. C'est aussi la spéculation, c'est que ce soit la spéculation foncière, la spéculation sur les denrées alimentaires, c'est un gros problème, quoi.
Oui.
Ouais, et par rapport à la manière dont on est entendu ou pas, c'est un peu paradoxal parce qu'on sent bien qu'aujourd'hui, les propositions qui sont faites par la Confédération paysanne en termes de politique agricole et de projet agricole, qui dépasse d'ailleurs seulement le cadre purement agricole, avec aussi un projet de société aussi. C'est-à-dire qu'on a une vision un peu plus large que une simple vision corporatiste. Donc c'est ce qui correspond le plus, je pense, aux attentes de la société aujourd'hui, avec production d'une une alimentation de qualité, prise en compte des ressources naturelles, Nous, on revendique plutôt des paysans nombreux sur des structures à taille humaine plutôt que des grosses exploitations tournées, comme disait Pauline, vers l'export avec une logique juste de compétitivité. Donc, il y a tout un volet social qu'on porte aussi. Il y a toutes ces préoccupations aussi liées à l'international, c'est-à-dire qu'on ne considère pas que notre système agricole doit être déconnecté des préoccupations de nos voisins et que les politiques qu'on met en place chez nous ont forcément une incidence sur les paysans voisins. Donc voilà, il y a un peu une réflexion d'ensemble. Mais historiquement, donc malgré, je pense, à ce discours qui est relativement bien reçu au niveau de la société, au niveau politique, au niveau du pouvoir, en tout cas, il est dur à faire passer parce que depuis l'après-guerre, en fait, la FNSEA était l'unique syndicat au sortir de la guerre et jusqu'à la création de la Confédération paysanne. Bon, il y a eu quelques syndicats, mais globalement, où la conf s'est structurée du coup il y a 30 ans. Voilà, c'est dur de changer les structures du pouvoir parce que la FNSEA est installée de partout, contrôle tous les espaces liés à l'agriculture. Donc pour se faire entendre et en tout cas infléchir les politiques au niveau national, c'est long.
La FNSEA obéit à des critères de rentabilité maximale, je pense. Mais est-ce qu'il est possible que les règles puissent être changées? Et est-ce que c'est un rêve de penser, par exemple, qu'un nouveau ministre de l'Agriculture puisse modifier un peu ces règles?
Alors, le ministre de l'Agriculture, il peut intervenir notamment dans tout ce qui concerne la PAC, par exemple, la politique agricole commune. Et ça, c'est les syndicats qui font remonter les revendications. Après, moi, j'ai envie de rêver que ce soit possible qu'il y ait un changement, ouais. Et je pense que pour qu'il y ait un changement, il faut qu'on se bouge, faut que au niveau du terrain, les gens se motivent pour faire comprendre que c'est un projet qui a de la valeur, que c'est un projet qui est viable, que c'est pas seulement un projet qui sort d'une cave, que ça fait quand même des années que c'est un projet qui vit, quoi, et que il y a aujourd'hui beaucoup de d'éléments qui ont été travaillés par la Confédération paysanne depuis des décennies qui sont actuellement maintenant repris par les autres syndicats parce qu'ils s'aperçoivent que c'était des bonnes idées, sauf que jusqu'à maintenant elles n'étaient pas entendues parce que c'était un syndicat qui n'était pas majoritaire et que maintenant tout d'un coup c'est génial, c'est la nouvelle idée du moment, mais ces idées elles sont pas neuves. Quand on parle de circuits courts, quand on parle d'agriculture biologique, quand on parle de petites fermes, ça c'est des choses qui datent vraiment. Et tout d'un coup, on fait comme si c'était le truc nouveau, mais c'est pas nouveau du tout. Et le problème, c'est qu'il faut que ce soit entendu vraiment maintenant. Là, il y a urgence, quoi.
Oui, enfin, c'est ce que dit Pauline. Je pense qu'il y a un certain nombre de propositions, une partie du discours qui était inaudible il y a 30 ans et qui aujourd'hui paraît évident quand on parle des pesticides, de la pertinence de l'agriculture biologique, etc. Et pas seulement l'agriculture biologique, c'est l'agriculture paysanne en général. Aujourd'hui, c'est repris à bon compte, y compris justement par les chambres d'agriculture, parce que justement, ça répond à une demande de la société, ça répond aussi à des obligations parfois réglementaires. On voit avec le changement climatique, etc., on a un modèle agricole qui permet de répondre aux enjeux actuels. Mais après, même si des fois c'est repris, et ben tant mieux. Sauf que il faut être vigilant à ce que la logique que nous on met derrière l'agriculture paysanne soit pas dévoyée non plus. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui parler d'agriculture biologique sans remettre en cause une logique de pure compétitivité et qui du coup pour nous n'a aucun sens. Donc on peut faire 20 hectares de poireaux en agriculture biologique, ça n'a aucun sens. Vaut mieux de l'agriculture paysanne qui est ancrée sur un territoire, qui utilise ses ressources locales, qui cherche à alimenter des marchés locaux et à la limite qu'il soit pas en bio. C'est pas, enfin, la question elle est beaucoup plus large que ça et donc je pense que voilà, faut continuer encore à porter ce discours-là.
Le cahier des charges de l'agriculture biologique existe-t-il et de qui a-t-il émané ?
Alors le cahier des charges de l'agriculture biologique existe bien sûr, il existe depuis longtemps, alors là j'ai pas la date en tête. Je veux juste rappeler qu'au niveau de la Confédération Paysanne, ce n'est pas un syndicat d'agriculteurs bio. Il y a beaucoup d'agriculteurs bio au syndicat de la Confédération Paysanne, mais c'est pas du tout exclusif et du coup je peux pas me prononcer seulement sur l'agriculture biologique aujourd'hui, parce que il existe, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, qui voilà, mais voilà. Je m'en retiendrai là.
C'était pour revenir un peu à votre propos sur l'accaparation par la FNSEA de l'agriculture biologique, mais avec peut-être un certain laxisme vis-à-vis des normes et qui ne sont pas forcément à l'initiale et qui correspondent vraiment à l'idée de ce qu'on se fait de l'agriculture bio. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir été dessaisi justement de ces capacités au profit de la FNSEA ?
Alors en fait, je dirais que ceux qui sont dessaisis, c'est plus les associations locales de terrain qui œuvrent depuis des années sur la mise en place de formations, sur la proposition, sur les propositions par rapport aux aides notamment. Et donc au niveau local, on a Agribiodrome qui travaille depuis très longtemps sur le sujet et qui propose des formations, plein de choses depuis longtemps. Et aujourd'hui, tout ce qui est proposé qui était proposé par Agribiodrome commence à être proposé par la Chambre d'agriculture comme si c'était quelque chose de nouveau et comme si elle était le seul à pouvoir le servir. Ce sont des services qui sont payants. Voilà, aujourd'hui, la Chambre d'agriculture, elle est gérée comme une entreprise lambda, financée en partie par des subventions, quoi.
Vous êtes plutôt donc pour une agriculture à taille humaine. Ces dernières semaines et puis dans les jours qui viennent aussi, vous allez proposer diverses rencontres. Il y en avait une qui avait lieu le 30 octobre concernant la biculture et les pesticides. Est-ce que vous auriez peut-être quelques mots à dire de ce qu'il en est sorti ?
Sur les retours qu'on a, c'est que voilà, il y a une bonne participation, il y a une présentation d'une vétérinaire un peu spécialisée sur la question qui a permis d'avoir des éléments relativement précis sur l'impact des pesticides sur l'apiculture. Nous, autour de cette question-là, il y a une position qui est claire à la Confédération Paysanne, c'est qu'il faut aller vers une sortie des pesticides. Après, on est bien conscient qu'on n'en sort pas du jour au lendemain, parce que l'agriculture a été... Enfin, en tout cas, les politiques agricoles ont largement poussé à la dépendance des paysans vis-à-vis des pesticides. Et du coup, changer tout un système, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et il faut faire attention d'ailleurs à ne pas incriminer les paysans, les agriculteurs qui utilisent ces produits, qui sont, enfin, moi j'en connais pas en tout cas, qui prennent un plaisir fou à utiliser ces produits-là aujourd'hui, surtout aujourd'hui quand on est conscient de tout ce que ça a comme impact au niveau de la santé humaine, au niveau de l'environnement, les conséquences sur les abeilles, etc. Mais ce qu'il faut, c'est justement mettre en place des politiques qui permettent une sortie réelle des pesticides sans que ça aboutisse à la disparition des paysans, ou alors que du coup la France sorte des pesticides mais que du coup ça délocalise un peu l'usage des pesticides vers d'autres pays qui n'auront pas les mêmes normes et du coup mettent en difficulté l'agriculture française. Donc c'est quand même une réflexion assez complexe et globale qu'il faut avoir par rapport à ça, mais ceci étant dit, voilà, la conf est très claire sur le fait qu'on doit aller vers une sortie des pesticides.
Je reviens un peu sur les prochaines élections professionnelles. Donc, vous êtes en campagne actuellement et quels sont les prochains rendez-vous justement autour de cette élection que vous proposerez, par exemple, dans le Diwa ?
Alors, dans le Diwa, on en a une qui est prévue tout bientôt, mercredi prochain, 28 novembre, à Pont-de-Car, à Soleure-en-Diwa, à la salle municipale. Et c'est une soirée sur la question des loups et du pastoralisme, durant laquelle il y aura la projection d'un film qui a été réalisé par la CONF, un film essentiellement basé autour de témoignages d'éleveuses et d'éleveurs pastoraux qui sont touchés fortement par les attaques de loups et qui remettent en question leur activité. Et voilà, ce sera suivi d'un débat. Alors, pour nous, c'était important de, dans le cadre de ces élections-là, d'avoir un temps de rencontre et de débat autour de la question de l'élevage. Parce que l'idée, c'est pas de débattre du loup pour ou contre le loup. Enfin voilà, un débat complètement stérile sur lequel on peut pas se positionner en tant que tel. Nous, ce qu'on veut mettre au cœur du débat, c'est l'importance de l'élevage, notamment dans des régions comme les nôtres ici, qui correspondent à une activité complètement pertinente par rapport au territoire qu'on a et qui aujourd'hui est mise à mal pour plein de raisons. Il y a donc la prédation dont on va parler mercredi prochain avec le développement de la population de loups et du coup du nombre d'attaques qui vont avec. Avec des éleveurs et des éleveuses qui sont démunis face à cette nouvelle, enfin, même si des loups, il y en a eu par le passé, on a eu une période suffisamment longue sans loups pour qu'aujourd'hui ça devienne une problématique assez nouvelle. Et malgré toutes les mesures qui sont mises en place, on a du mal à faire face et ça met sérieusement en danger les pratiques d'élevage. Et après, il y a plein d'autres raisons qui font que aujourd'hui, faire de l'élevage tel qu'on l'entend à la conf, en tout cas, c'est-à-dire de l'élevage qui ne soit pas de l'élevage industriel, et en ça, l'élevage pastoral est vraiment une des formes d'élevage qu'on trouve les plus cohérentes vis-à-vis du territoire, c'est-à-dire qu'on on valorise des ressources naturelles fourragères qui sont des végétations spontanées, dans des espaces sur lesquels on ne pourrait pas faire d'agriculture sinon, qui ont un intérêt au niveau de l'entretien des paysages, de la lutte contre les incendies, ça a aussi une place au niveau de la biodiversité. Donc après, il y a plein d'autres formes d'élevage que le pastoralisme qu'on défend. Mais en tout cas, celle-ci est vraiment mise en danger avec la question des loups, quoi.
Et puis il y a aussi la propagation des forêts qui empiètent sur les pâturages. Ça, c'est une constatation avérée ?
Ah oui, ça c'est vraiment flagrant dans le Diois. Alors c'est lié au fait que le nombre de paysans a vraiment diminué de manière assez catastrophique au fil des années, et donc on n'est plus en capacité d'entretenir tous ces espaces-là. Donc, c'est des espaces qui sont ensauvagés, qui en soi, pour nous, n'est pas forcément un problème en soi, sauf que c'est le symptôme d'une disparition des paysans et des pratiques d'élevage dans ces régions-là, quoi. Et donc, nous, c'est plus ça qui nous interpelle.
Avec la prédation, en fait, il y a des zones d'estive qui sont abandonnées, notamment dans les Trois Becs, là, parce que trop d'attaques ont fait que des éleveurs n'acceptent plus de mener leurs bêtes sur des zones comme ça. Donc on est quand même dans le Diois notamment, mais dans la Drôme en général, dans des zones touristiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si les lieux sont aussi touristiques et accessibles, c'est aussi grâce, mine de rien, au pastoralisme. Et donc Christophe en parlait tout à l'heure, par rapport à la lutte contre les incendies, on va être de plus en plus dans des situations à risque avec un changement climatique qui est avéré, et sans le pastoralisme, il va falloir que les gens se mettent à couper, à débroussailler, ça peut être compliqué.
Juste pour compléter un peu par rapport à ce que je parlais d'ensauvagement, là, nous, il y a aussi un élément sur lequel on est assez vigilant, c'est-à-dire que il y a de plus en plus de positions d'un certain nombre de groupes qui ciblent l'élevage comme un peu le responsable ou des problèmes de biodiversité, d'atteinte à l'environnement, etc., avec une espèce de connotation négative, c'est-à-dire que faire de l'élevage, élever des animaux, c'est mal, alors parce qu'on les exploite, en plus on les tue, etc. Du coup, la réponse, c'est fin de l'élevage, sans faire la différence entre l'élevage industriel et l'élevage paysan tel que nous, on le défend, avec des démarches et des propositions qui vont dans le sens de réensauvager des espaces entiers, c'est-à-dire les rendre interdits à toute action humaine pour laisser la place à la nature. La nature reprend ses droits, etc. Mais nous, ça nous semble des propositions assez délicates, dans la mesure où c'est un déni des activités qui existent depuis des siècles. Alors, bon, c'est pas pour dire qu'elles sont bien ou pas bien. En attendant, du jour au lendemain, on cherche à les balayer de la main, ce qui, pour nous, va poser quand même des gros problèmes. C'est exclure des paysans de zones où ils sont en activité. Donc, nous, c'est un discours face auquel on est vraiment
prudent.
Ouais, et puis en tout cas, nous, ce qu'on cherche à dire face à tout ça, c'est attention, l'élevage est absolument indispensable à l'agriculture. C'est un leurre d'imaginer qu'on puisse faire fonctionner une agriculture équilibrée, telle qu'on l'entend, sans élevage. Produire de la viande, produire de la laine, produire du cuir, produire de la fertilité via le fumier pour fertiliser les cultures, entretenir l'espace, il n'y a pas 36 manières. Et voilà, ça fait 10 000 ans qu'on cohabite avec les animaux. Je pense qu'aujourd'hui, pointer du doigt l'élevage tel que c'est fait aujourd'hui de manière extrêmement violente par des associations telles que L214 ou autres, avec tout le mouvement vegan, pour nous, c'est des méthodes déjà absolument inacceptables. C'est des méthodes violentes qui dénigrent, etc. Et qui, en plus, pour nous, dénotent vraiment un manque de connaissance de ce qu'est l'agriculture aujourd'hui, l'élevage faisant partie de l'agriculture. Et donc, c'est vraiment des visions urbaines de pays riches qui ont l'impression de trouver le salut à travers la fin de l'élevage. Donc, nous, vraiment, on est dans... C'est un de nos gros combats aujourd'hui, c'est de défendre l'élevage, mais l'élevage paysan, quoi, pas l'élevage industriel, ça c'est sûr.
Il faut savoir aussi que dans la Drôme, on a quand même un département assez grand et assez diversifié. Il y a beaucoup de zones qui sont on va dire, des zones rurales qui sont éloignées. Et actuellement, ces zones-là vivent aussi grâce à l'élevage en termes de revenus déjà, mais aussi en termes de répartition de la vie sur le territoire, quoi. Ça veut dire qu'on a beaucoup de fermes qui permettent que des villages continuent d'être des villages vivants, avec des familles, avec des enfants. Ces gens-là, s'ils ne sont pas éleveurs, ne peuvent pas vivre de l'agriculture sur les lieux, quoi. Donc après, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'on les envoie faire de l'informatique en ville ? Enfin, ça permet aussi quand même que des petits villages, partout dans la Drôme, hein, y a des petits villages excentrés qui continuent de vivre, ou même des hameaux qui continuent d'être vivants grâce à l'élevage.
Face à toutes ces difficultés de l'élevage à taille humaine des ovins ?
Tous les élevages pastoraux. Donc ça peut être les ovins, ça peut être brebis, chèvres, vaches, chevaux. L'élevage pastoral est quand même à multiples facettes, quoi.
Est-ce que vous envisagez au sein de la Confédération paysanne, ne serait-ce que peut-être l'élevage hors sol ?
C'est un peu compliqué. Moi, dans ma vision que j'ai de l'agriculture paysanne, je pense que le hors sol est une solution qui a pu servir à un moment donné, mais qui n'est pas du tout en accord avec le projet de la Confédération paysanne. C'est un peu comme l'histoire des pesticides, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir en sortir. Avoir des animaux hors sol, par exemple, c'est quand même les priver, dans la plupart des cas, du plus important, c'est-à-dire le soleil. Et on ne peut pas considérer quelque chose qui soit durable dans le temps si on prive notamment les bêtes de la base, c'est-à-dire le bien-être. Et le bien-être, il passe d'abord par le fait d'être en contact avec dehors, d'être en mesure de se nourrir seul. Après, c'est des choses, c'est toujours pareil. Il y a un moment donné où ce schéma d'agriculture-là a été mis en place parce que c'était la modernité, parce que c'était peut-être une facilité d'une certaine façon, etc. Comme les pesticides, à un moment donné, il va falloir arriver à en sortir. Alors, aider les gens à en sortir, peut-être par le biais de subventions, par le biais de formations, mais ça fait partie de l'industrialisation qui est quand même quelque chose qu'on refuse, quoi.
Après, pour réussir justement à pas devoir faire de l'élevage hors sol, ce qui risque d'arriver si la population de loups continue à s'étendre, si... pour plein de raisons. Nous, ce qu'on dit, c'est que pour pouvoir faire de l'élevage tel qu'on l'entend, il faut pouvoir en vivre, parce que sinon il n'y a personne qui va travailler à perte, y consacrer son énergie, son temps, etc., et faire de l'élevage tel qu'il se pratique dans le coin, ça demande du temps, ça demande beaucoup d'énergie, promener ses bêtes dans la montagne, faire des parcs dans la broussaille, ou même, même sans que ce soit du pastoralisme, de l'élevage plein air, c'est plus de boulot que de l'élevage hors sol. Donc si on veut permettre aux paysans de pratiquer cette forme d'élevage, en face, il faut qu'il y ait des politiques publiques qui assurent un revenu décent aux paysans, en nous mettant pas en concurrence avec justement des productions animales qui viennent alors soit de l'agriculture industrielle française, soit de productions qui viennent d'autres pays, et dans un modèle libéral comme celui dans lequel on est, on peut pas faire face. Donc aujourd'hui on est maintenu par les aides de la PAC, de la politique agricole commune, mais qui sont des aides dont on est dépendant et qui peuvent s'arrêter aussi du jour au lendemain, et qui en plus ne satisfont pas les paysans. C'est-à-dire que plus ça va, plus elles nous contraignent à des pratiques qui ne sont pas celles qu'on mettrait en œuvre si on n'était pas tenu par un système de primes, et que nous ce qu'on demande, c'est de pouvoir vivre de nos productions par une rémunération par les prix, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans la plupart des productions. Donc c'est une vision globale qu'on porte pour pouvoir exercer notre métier de manière autonome et avec tout le bon sens qui théoriquement caractérise le monde paysan, quoi. Ce qui n'est plus le cas parce que justement on est pris dans un système qui nous permet plus de faire les choses telles que le bon sens justement nous dirait de faire.
D'en vivre décemment, on entend la notion de revenu évidemment, mais il y a aussi la notion de temps. Il y a le slogan de la Confédération paysanne aujourd'hui, c'est produire pour vivre, et c'est bien produire pour vivre et pas l'inverse. C'est-à-dire que aujourd'hui, on demande que les paysans ils puissent avoir un revenu décent, avoir du temps pour passer avec sa famille, du temps libre, avoir une vie familiale, vivre quoi, tout simplement vivre comme n'importe qui en aurait le droit. Et donc, voilà, ça passe par le revenu et ça passe aussi par le fait qu'on accepte que on a le droit nous aussi d'avoir du temps et que c'est pas une histoire de fainéant de travailler moins. Ça fait aussi partie de la vie quoi.
Votre action est plus ponctuelle que globale, je suppose, pour seconder et aider les paysans.
Ah, moi, je dirais pas ça. En fait, l'action, elle est permanente. C'est-à-dire que le syndicat, il ne vit pas qu'au moment des élections. Le syndicat, il a une vie permanente avec des assemblées générales chaque année qui rassemblent les paysans. Le syndicat doit être à même de répondre n'importe quand dans l'année, que ce soit des moments où on est disponible ou pas. On doit pouvoir répondre aux questions des paysans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, que ce soit par exemple des problèmes liés à la politique agricole commune, des réactions qu'on peut avoir par rapport à des difficultés de foncier sur le terrain, c'est des actions qui sont menées à longueur d'année. Voilà. Donc après, à longueur d'année, on travaille sur différents sujets, notamment pour défendre pas seulement un paysan, mais bien la paysannerie dans sa globalité, les agriculteurs dans la globalité, au niveau national, au niveau de l'Europe aussi, parce que à l'heure actuelle, l'agriculture, elle se parle beaucoup au niveau de l'Europe, notamment par rapport à la politique agricole commune. Mine de rien, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, peut-être plutôt malheureusement, c'est la politique agricole commune qui façonne le paysage de l'agriculture à l'heure actuelle. C'est-à-dire que si on met de l'argent sur les élevages industriels, les gens font de l'élevage industriel. Aujourd'hui, ce qui parle aux gens, c'est l'argent. Et ben voilà, donc il faut que notre projet arrive à percer pour sortir seulement de ce truc-là et d'arriver à mettre en place des politiques qui favorisent plutôt des fermes nombreuses, c'est-à-dire des fermes quand des paysans cèdent leur exploitation, ils la cèdent vraiment à quelqu'un qui arrive. Et que l'exploitation ne soit pas seulement rajoutée à une exploitation déjà existante qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle. Voilà, ça c'est vraiment la politique, elle est à longueur d'année quoi. C'est ça qui est important et ça permet aussi de rappeler à tous les paysans qu'on a toujours besoin qu'il y ait de l'action au niveau du syndicat, mais pour que la politique elle puisse percer quoi.
Justement, cette accaparation de fermes délaissées ou plutôt, je dirais, transmises à des nouveaux paysans ou de nouveaux agriculteurs. Terre de Liens, par exemple, est-ce que c'est une structure avec qui vous avez des contacts?
Alors, la Confédération paysanne, elle a des liens avec Terre de Liens. Après, c'est pas forcément évident pour moi de répondre à cette question-là parce que donc il y a eu plein d'installations qui ont eu lieu avec Terre de Liens qui sont en général des installations en agriculture biologique sur des fermes à taille humaine, ce qui répond à nos revendications. Et ça c'est une très bonne chose. La difficulté à l'heure actuelle, par exemple, on commence à avoir des fermes qui sont à des étapes de cessation d'activité, donc de cession reprise, qui du coup on se retrouve face à la problématique du logement des paysans, parce que donc les paysans qui sont installés par Terre de Liens sont locataires à vie, ce qui d'une certaine façon est une très bonne chose parce que ça veut dire qu'une fois que les paysans ont terminé leur activité, la ferme est disponible et ça c'est vachement important. L'aspect délicat qui pour l'instant est pas très bien géré à mon goût, c'est justement qu'est-ce qu'on propose aux cédants qui s'en vont, qui ont du coup travaillé toute leur vie pour des revenus qui sont modestes. Qu'est-ce qu'on leur propose en termes de logement et en termes de suite? Comment on prend ça en compte? Actuellement, la plupart des paysans qui sont propriétaires ont des revenus qui sont des revenus plus ou moins intéressants. Et ce qui leur permet de vivre plus ou moins tranquillement à leur retraite, c'est d'avoir du capital. Ce capital-là, il peut poser problème. Évidemment, ce capital, il pose problème. Parce que si la ferme est revendue, Elle est revendue en général trop cher à des gens qui ne peuvent pas s'installer. Et en même temps, c'est ce qui permet à ces gens-là, avec les retraites agricoles qui sont ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose, d'arriver à continuer derrière. Donc il y a un gros travail à faire actuellement sur qu'est-ce qu'on fait avec les exploitations agricoles, comment on fait quand il y a une cessation reprise, vente, pas vente, le prix de l'accès à la terre, voilà, ça c'est un gros travail à faire.
Entre agriculteurs et paysans, quel terme vous semble plus judicieux pour vous ?
Je pense que les paysans sont des agriculteurs. Pour moi, dans paysan, il y a le lien à la terre, qui est hyper important. Le paysan, qui vient de pays, de paysage, ça vient tout du même mot. Ce lien à la terre, il est essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'agriculture lambda, on a les paysans qui, normalement, sont en lien avec la terre. On a des structures plus ou moins importantes. Et on a aussi la surmodernisation qui est... l'agriculture vue par les drones et le numérique. Et cette agriculture-là nous met face à du coup des structures qui sont plus des structures spéculatives, en fait, ou de production d'argent que de production de revenus de base, quoi. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec des structures, dans la Drôme pas trop, mais dans pas mal de départements, où les gestionnaires, qui sont donc maintenant plus des gestionnaires et plus vraiment des paysans, qui ne mettent même plus le doigt dans la terre, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont plus de lien avec leur environnement de base, qui est pour moi la base de la paysannerie, le sol, quoi.
Voire même, est-ce qu'ils connaissent leur terre, hein ? Est-ce que vous avez, malgré toutes ces difficultés et de l'adversité entre le PAC, la FNSEA, le productivisme, l'agriculture intensive...
L'industrialisation, on va dire.
Voilà, industrialisation donc de l'agriculture. Est-ce que malgré toutes ces difficultés, vous éprouvez quand même une fierté ?
Oh ben ouais, tous les jours. Ouais, et puis c'est vrai que je pense qu'on oscille entre des moments de bon désespoir, justement quand on, je pense, peut-être quand on est réaliste, c'est-à-dire quand on voit l'agriculture où elle en est aujourd'hui, et aussi avec de l'optimisme, parce que déjà je pense que si aujourd'hui il reste des paysans, enfin au sens où on l'entend, des agriculteurs, l'agriculture paysanne aujourd'hui en France, c'est parce qu'il y a eu toutes ces luttes. Parce qu'avec l'effort qui a été mis au niveau des politiques publiques pour moderniser l'agriculture, enfin moderniser dans le sens où c'était entendu avec juste une logique de compétitivité, d'industrialisation, c'est complètement étonnant qu'aujourd'hui on ait encore des paysans. Et ça, c'est bien parce que les luttes ont payé. Et qu'aujourd'hui, il y a plusieurs pays, dont nos pays voisins, en Allemagne, en Angleterre, où c'est fini. Où, pour ainsi dire, il ne reste plus de paysans. On est vraiment sur d'autres formes d'agriculture. Et donc, le fait qu'il en reste aujourd'hui en France, ouais, ça donne, même si on n'est pas beaucoup, on est encore vivant. La conf, finalement, elle a 30 ans et on ne donnait pas cher de sa peau quand elle s'est créée, elle est toujours là. Son discours, il est pertinent vis-à-vis de la société. Il y a aussi... La conf fait partie d'un groupe beaucoup plus large qui s'appelle la Via Campesina, qui est l'organisation mondiale des paysans. C'est 200 millions de membres. C'est énorme. Et voilà, quand on voit tout ça, on se dit non, il y a encore de l'avenir, quoi.
Avant de continuer et bientôt terminer, je voudrais avoir quelques précisions quand même vous concernant. Pauline Perdry.
Donc moi, je suis éleveuse de chèvres sur une petite structure avec 45 chèvres en production de fromage, un troupeau pastoral. Voilà, avec des cochons, des poules, enfin voilà, une ferme comme je l'entends.
Et Christophe Morantin, vous-même ?
Et moi, je suis installé avec ma compagne. Donc moi, je fais du maraîchage, pour le coup, sur un peu moins d'un hectare. Et on a une centaine de brebis mérinos dont on valorise la laine à glandage.
Voilà. Et puis, les prochains rendez-vous, donc je rappelle, comme vous l'aviez dit, le 28 novembre, donc une projection débat à Solor Andiwa, à la salle des fêtes, hein, à Pontcar. Et puis ensuite, le jeudi 6 décembre, une ferme ouverte avec de l'agriculture paysanne. Ça sera la ferme de Sébastien Bost, aussi éleveur de chèvres et de cochons. C'est un moyen aussi pour vous faire connaître et d'accueillir un public pour découvrir vos actions et puis vos programmes.
Alors là, les fermes ouvertes sont surtout destinées aux paysans. L'objectif, c'est de relancer le débat et de réouvrir les discussions. Notamment, là, la ferme ouverte chez Sébastien Bost sera l'occasion de parler d'agriculture paysanne, d'agriculture biologique, de place de la vente directe dans les circuits, d'autonomie alimentaire de troupeaux, par exemple, de l'emploi, de la qualité des produits. Voilà, donc le rendez-vous est à 14h à la ferme heureuse, à Heure.
Ces renseignements, vous pouvez les trouver aussi sur le site donc, de la Confédération Paysanne, http://drome.confédérationpaysanne.fr. Pauline Perdry et Christophe Morantin, je vous remercie tous les deux d'être venus nous parler donc, de la Confédération Paysanne et puis aussi de la prochaine élection professionnelle à la Chambre d'agriculture de la Drôme. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci de nous avoir reçus.
Au revoir.
Au revoir.
Interview.
Okay, the bird.